Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture planète du Ciboulot animée par l'équipe des films de la Gorgone. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.lesfilmsdelagorgone.fr. Nos précédentes émissions, déjà diffusées sur cette antenne, sont disponibles sur Deezer, iTunes, Podcloud et Spotify. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un blog, culture-prohibée.blogspot.fr.
J'ai jamais travaillé pour mes achats. Oui, mais je me dis, sinon je serais riche au champ.
Au sommaire aujourd'hui, une émission entièrement consacrée à une actrice hors norme qui a bouleversé nombre de cinéphiles avant de sombrer dans l'oubli. Et pourtant, quelle incandescence dans le regard, quelle prestance, quelle élégance. Cette grande brune envoûtante aux yeux de chat a tourné chez Lozé, Fellini, Bertolucci, Questi, Sergio Martino aussi, Francesco Rosi, et j'en oublie. Elle est la fille de deux légendes, Maria Montez, alias la Bomba Latina, elle était surnommée comme ça, hein, la Bomba Latina fascinante du signe du Cobra, de Robert Siodmak, et le comédien français Jean-Pierre Aumont, véritable star internationale qui tourna aussi bien pour Truffaut que pour Chabrol, pour Orson Welles, Sidney Pollack, enfin voilà. Et bien sûr, vous avez deviné de qui je veux parler, je veux parler de Tina Aumont, hein, qui nous a quitté bien trop jeune, à 60 ans, en 2006. Et il se trouve qu'un homme est parti sur les traces de Tina Aumont. Il a enquêté pour livrer un ouvrage singulier, une biographie romanesque intitulée « Waiting for Tina, à la recherche de Tina Aumont », qui est paru chez L'Autre Regard Édition. Alors cet homme s'appelle Jean Azarel et il va nous accompagner pour évoquer le souvenir de la belle Tina. Bonjour Jean.
Bonjour et bonjour à tous les auditeurs de Culture Prohibée.
Alors, on entendra aussi quelques mots de Tina Aumont qui avait été recueillie par notre ami Antoine Cervero, alias Eurydice de son pseudo, hein, Antoine que l'on salue et que l'on remercie donc à travers ce micro. Je voulais commencer par une question, Jean Azarel, qui est très basique, mais en même temps, voilà, qu'on est en droit de se poser, c'est pourquoi vous avez choisi et eu envie d'écrire ce livre sur Tina Aumont?
Alors, il y a effectivement plusieurs raisons complémentaires. Je crois que la première, historiquement parlant, c'est 1974. J'avais tout juste 20 ans et j'ai découvert, comme vous le disiez, ce regard extraordinaire de Tina Aumont dans un film de Philippe Garrel qui s'appelle « Les Hautes Solitudes », où elle apparaissait aux côtés d'autres légendes, hein, Jean Seberg et Laurent Terzieff. Et puis, elle m'a accompagné de loin en loin toute ma vie. Et puis, à son décès, 3 ans après, je me suis rendu compte qu'elle passait par perte et profit. Il n'y avait rien sur elle, pas de livre, pas de témoignage. Donc, je me suis lancé. C'était aussi une façon pour moi de rendre grâce à toute une époque et une génération qui ont bouleversé ma vie.
D'ailleurs, le livre, il est écrit comme un polar. Vous êtes même poursuivi par d'étranges représentants des forces de l'ordre, je n'en dirai pas plus. Pourquoi ce choix d'écriture, en fin de compte, et c'est ça qui le rend addictif d'ailleurs aussi, hein.
Eh ben, je ne voulais surtout pas faire une biographie classique qui part de la naissance, l'âge mûr, la vieillesse, même si la vie a été trop courte, hein, bien sûr. Donc je voulais vraiment faire quelque chose qui rende compte finalement de ce qu'elle est pour moi, une personnalité quand même très fragmentée, très très protéiforme, et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire un petit peu une bio à l'envers. Elle l'est pas complètement, avec un fil rouge qui est effectivement cette recherche du biographe qui est en même temps suivi par un flic dont on ne saura jamais très bien pourquoi, mais qui est lui-même à la recherche de Tina Aumont. Voilà.
D'ailleurs, vous, pour le livre, on peut dire que vous avez travaillé un peu comme un détective, hein. Vous marchez sur ses traces, vous allez dans son quartier, vous vous imprégnez de son vécu. En quoi c'était important pour vous de procéder de la sorte pour écrire le livre ?
Je suis parti d'une page blanche, hein, complètement. Donc j'ai effectivement joué le détective. Hein. Il a fallu remonter tout un écheveau de gens qui l'ont connu, qui l'ont aimé, qui ont tenté sans succès de la sauver. Et finalement, c'est un peu une écriture puzzle, mais parce que la vie de Tina est un puzzle. Elle a connu plusieurs époques, elle a connu des gens très très différents et il m'a semblé que c'était bien de rendre compte ainsi, de ne pas, là encore, faire quelque chose qui n'aurait pas correspondu à son chemin de vie, tout simplement.
Et puis vous nous rappelez aussi que vous êtes également poète, puisque vous avez écrit par exemple « Trois trous dans la fièvre » qui sont parus aux éditions Saint-Germain-des-Prés en 97 et... Waiting for Tina voit chacun de ces chapitres introduit par un poème. Et pourquoi là ce choix justement de la poésie pour introduire chacun des chapitres ?
Alors bon, c'est vrai que je viens de la poésie, même j'en écris encore, mais enfin j'en suis maintenant aussi sorti. Et je crois que c'est bien aussi de ne pas se contenter à un seul genre, mais je voulais aussi rendre compte finalement de la forme de poésie simplement qui émanait de Tina Aumont, quoi. Bon, on a parlé de son regard, mais tout son personnage, cette aura, cette grâce, pour moi, c'est profondément poétique. Donc c'était bien, je pense que chaque chapitre sort d'un petit poème qui rend compte aussi un peu différemment de mon ressenti par rapport à elle, en prenant aussi des têtes de chapitre qui sont des clins d'œil à des noms de films ou à des chansons également, puisque Tina était évidemment actrice, mais elle était aussi elle avait aussi une vie musicale dans sa façon d'être, quoi, voilà.
Non, bien sûr. Et puis, est-ce qu'on peut dire, du coup, en fin de compte, parce que j'étais en train de me replonger dans votre livre, là, je regardais les noms de chapitres, du coup, parce que
ouais,
c'est vrai
ouais,
qu'il y a,
ouais.
y a des titres qui sont, je pense, aux portes du Pacadis, tout ça, enfin bon, des choses. On reviendra
alors,
sur.
Voilà, il y a quelques petits jeux de mots, les portes du Pacadis, effectivement. L'addiction tue l'addiction.
Il y a quelques
clins d'œil aussi, comme ça. Parce que, on peut considérer que la vie de Tina Aumont s'est finie tragiquement, mais c'est quelqu'un qui aimait énormément rire, qui avait en elle une joie de vivre absolument extraordinaire. Et ça, malgré ses périodes de déprime, et elle en a eu, elle a quand même toujours été portée par ce bonheur de jouer d'abord, et puis par cette joie de partager avec les gens. C'est quelqu'un qui était resté très très simple, même au moment... De sa grandeur, hein, au début des années 70, où, comme vous l'avez rappelé, elle a quand même tourné avec les plus grands, et notamment en Italie, où quelque part, elle était aussi, elle, sur les traces de sa mère, Maria Montes, qui est décédée quand Tina avait 5 ans, hein, dans des conditions, elle aussi, tragiques. Ça l'a marqué toute sa vie, mais elle a aussi eu cette envie de transcender un peu un drame personnel.
Justement, là, vous l'abordez dans le livre. C'est bien expliqué effectivement que quand Maria Montes meurt très jeune dans son bain, Tina n'a que 5 ans. Effectivement, ça la marque profondément. Et puis, à peine adulte aussi, elle épouse le frère de Nadine Trintignant, donc l'acteur réalisateur séducteur aussi.
Marquant, ouais,
voilà, qui est
ouais.
Ami de Marlon Brando, de Roger Vadim. Et elle
oui,
perd.
Personnage aussi un peu trouble, hein, qui aimait les femmes et vraisemblablement aussi les hommes, hein, d'ailleurs. Hein,
Oui, c'est ce qu'on comprend à la lecture du livre. Et elle perd un enfant, en fait, qu'elle attend de Christian
Alors,
Marquant.
Elle perd un enfant qu'elle attend de Christian Marquant. Elle a un bébé de verre et puis on lui cache, parce qu'on a caché beaucoup de choses à Tina pendant toute son enfance puis son adolescence, y compris sur les circonstances exactes de la mort de sa mère. dont on lui a dit elle est partie au ciel. Elle a dit ah bon, ben il faudrait que le bon Dieu nous la renvoie. Donc voilà, il y a aussi ce côté enfantin qui quelque part ne l'a jamais quittée. C'était une fille qui était extrêmement naïve, hein, et puis bon, elle a été marquée par des événements personnels. Elle a été globalement malheureuse en amour, à part je pense qu'on va en parler aussi, mais la période avec Frédéric Pardo qui a été le grand amour de sa vie, mais ça n'a pas duré parce que elle avait une faiblesse qui l'a notamment menée vers les drogues, qui l'ont tenue prisonnière et en partie ruiné sa carrière.
Vous écoutez Culture Prohibée spéciale Tina Omo.
J'aime ses mains sur mon corps, j'aime l'odeur au-dessus de ses bras. Oui, je suis comme ça. Dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. Oh, dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. L'amour, je trouve ça toujours dans les yeux de ma mère. Dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière.
Finalement, eh bien, j'aurais voulu d'abord savoir, question bateau, si c'est lourd à porter au départ d'avoir des parents comme Jean-Pierre Aumont et Maria Montes. Est-ce que c'est dur au départ? Est-ce que ça vous fait de l'ombre?
Quand on va en bateau, il faut savoir nager. Je ne trouve pas que ça fasse vraiment l'ombre. J'ai eu la chance, parce que j'accompagnais mon père sur ses tournages, de voir comment se faisait un film avant d'en faire moi-même. Et donc, je trouve que c'est plutôt une chance. Maintenant, à l'école, c'est vrai que le fait d'avoir ses parents dans les journaux peut être dérangeant. Peut-être que c'est une des raisons qui m'a poussé à faire du cinéma moi-même pour quelque... mais moi aussi, j'aime ça et je suis capable de le faire.
Vos parents vous ont aidé? Vous ont, parce que l'idée est venue de vous.
L'idée est venue de moi. Ma mère est morte quand j'étais toute petite et je me suis mariée très jeune et c'était la chose que j'aimais faire. J'ai eu la chance d'apprendre d'aller dans des cours avec des bons profs. Je dois dire que comme ils disent, le pied à l'étrier, j'aime.
Toujours une lumière. dans les yeux de ma mère.
Elle a souffert de beaucoup d'addictions. Effectivement, ça, c'est indéniable. Elle a fait quand même pas mal de cures, et puis elle retombait, sauf, et c'est un peu un parallèle avec la chanteuse Nico, hein, sauf sur la fin, où effectivement, elle s'était beaucoup calmée, en tout cas pour les drogues dures, mais enfin, bon, même encore, quand elle avait ses problèmes respiratoires, hein, et l'emphysème qui a fini par l'emporter, elle continuait à boire du vin rouge et à tirer sur le pétard, hein. Ça, c'était Tina, quoi, hein, c'était sa vie, je crois qu'elle savait précisément quand même ce qu'elle faisait à ce moment-là et où elle allait aussi, hein, bien sûr.
Oui, bien sûr. C'est aussi, vous l'abordez dans le livre, hein, à un moment, il y a toute une partie où vous évoquez effectivement sa toxicomanie, sans détour d'ailleurs, vous comparez aussi Tina Aumont à d'autres actrices très belles, d'ailleurs je pense à Lily Carati par exemple, qui a connu une destinée tragique, broyée un peu par cette industrie du cinéma, et pourtant il y a quelque chose qui revient tout le temps avec Tina Aumont, c'est que quand on la voit à l'écran, rien ne transparaît, quoi.
Rien ne transparaît. Oui, oui, non, mais ça, tous les témoignages, les gens qui l'ont côtoyée, ont dit que c'était absolument extraordinaire parce qu'elle restait lisse, quoi. Hein. C'est une fille qui n'a pas été physiquement abîmée par la drogue. Hein. Bon, comme on dit vulgairement, elle avait quand même une santé de cheval. Hein. Elle a jamais fait vraiment d'overdose. Non, elle est toujours passée à travers. Qui me laisse à penser aussi qu'elle savait quand même précisément ce qu'elle faisait, jusqu'où elle pouvait aller, même si elle a été très très loin, hein, y compris dans des moments de déchéance, hein, qui l'ont notamment menée à un moment. Alors à l'époque, c'était la mode. Aujourd'hui, on est passé aux deux choses avec la vidéo, mais à faire des photos qu'on peut qualifier de porno soft. Allez, on va dire ça comme ça.
Oui, pour le magazine Les Aurais, où elle est, il y a Marie Zamel qu'on avait fait aussi, mais
il y a Marie Zamel, ouais. Bah, toutes les actrices de cette époque, hein, des années 80. Hein, bon, c'est un peu le côté obscur du 7e art. Hein. Bon, aujourd'hui, ça a beaucoup bougé, peut-être même dans l'excès inverse, on le voit avec les Adèle Haenel, par exemple. Mais c'est une époque où quand même la femme était quand même. Si elle n'avait pas vraiment une force importante pour refuser, quoi, hein, elle était quand même un peu, alors je dirais pas de la chair à canon, ça serait injuste, mais trop fort, mais de la chair à sexe. Hein, et beaucoup d'actrices, effectivement, en sont passées par là parce qu'elles avaient besoin d'argent pour acheter de la cam.
Oui, et puis il faut préciser aussi que si ce sont des photos avec des mises en scène pornographiques, les actrices ne s'adonnent pas à des activités pornographiques sur ces photos.
Non,
quoi,
absolument,
voilà.
Absolument.
Donc, On est encore loin de la sextape qui a remplacé aujourd'hui un peu tout ça. Voilà, quand
absolument.
Voilà.
Ouais, bien sûr.
Et vous êtes, on était un peu dans. On va rester dans cette histoire de drogue. On ne va pas passer tout l'entretien dessus, hein, mais parce que.
Non, parce que c'est pas vraiment le sujet non plus.
Exactement.
Là, mais c'est un fil conducteur, bien sûr, sur toute sa carrière. Hein.
Et justement, je veux utiliser un peu cette histoire qui lui est arrivée parce qu'en gros. Elle s'est fait livrer des petites statues de Bouddha avec de la drogue à l'intérieur. Et puis, elle a décidé de ne pas rentrer en Italie parce qu'elle savait que si elle rentrait, elle était condamnée et elle irait en prison. Et elle irait en
Absolument.
Prison comme Pierre Clémenti. Pierre Clémenti qui a fait 17 mois de détention.
Absolument.
Et il y a un vrai parallèle qui est fait dans votre livre avec Pierre Clémenti. C'est-à-dire, ce sont un peu les deux anges déchus de cette génération d'artistes, quoi.
Oui, bah, c'est des gens qui ont cru, comme beaucoup d'autres, hein, à cette période, qu'on peut un peu abusivement, mais enfin, c'est pas complètement faux, qualifier de post-68 heures, d'où on a cru que tout était possible, tout était permis. Et malheureusement, l'Italie était à l'époque en pleine période Brigade Rouge, et il y avait une répression très très forte qui s'abattait, et Clémenti en a fait les frais. Et c'était, entre guillemets, l'exemple, quoi, hein. Et évidemment, Tina ne voulait pas, et je pense qu'elle a bien eu raison, faire de la prison. Et du coup, elle a fui l'Italie, où elle était quand même une véritable vedette. Hein. Comencini, Bolognini, avec qui elle a fait des films extraordinaires, hein, Metello notamment. Et quand elle est rentrée en France, par contre, effectivement, où elle avait quand même peu tourné jusque-là, hein, au tout début, il y a eu le Vadim, bon, Garel, mais c'est très confidentiel. Personne ne savait, tout le monde avait oublié déjà Tina Aumont, hein, au début des années 80. Et elle a eu beaucoup de mal à se relancer sans jamais vraiment y parvenir.
Et c'est vrai, on l'oublie, mais moi, par exemple, j'adore le cinéma italien. C'est par le cinéma italien que je connais Tina Aumont. Sincèrement, hein, c'est pas par le cinéma français. Je l'ai vraiment découverte avec le cinéma italien.
Absolument, oui, mais c'est le cinéma italien qui a fait sa carrière, et notamment dans ses films à costume qu'elle adorait, hein, parce que on a voulu à un moment lui faire jouer des rôles, effectivement, un peu de bimbo, hein, comme on dit maintenant, mais c'est quelque chose qui ne l'intéressait pas. Et on oublie aussi qu'elle elle aurait pu faire une très grande carrière de mannequin, parce qu'elle avait quand même des dimensions et des formes superbes. Hein. Tinto Brass disait que c'était une des 10 plus belles filles du monde, ce qui veut à la fois rien et tout dire. Et elle faisait la une des magazines, on la voyait partout, quoi, à un moment. Y compris d'ailleurs un peu en France, hein, mais c'est vrai qu'on la voyait plus sur les unes de magazines comme Paris Match que pour la filmographie, absolument.
Écoutez Jean Azarel, auteur de Waiting for Tina, à la recherche de Tina Aumont, paru chez L'Autre Regard, édition, au micro de Culture Prohibée. Il y a aussi autre chose que vous abordez dans le livre, et que beaucoup de vos interlocuteurs évoquent, hein, c'est les relations compliquées entre Tina et sa belle-mère, Marisa Pavan.
Oui.
Et là, lorsque vous la rencontrez, en fait, Marisa Pavan, rien n'est simple, parce que le portrait qu'en a été tracé, il est quand même un peu différent de la femme que vous rencontrez.
Alors, bon, si vous voulez, bon, ce qui est important, je crois, pour essayer hein, de bien comprendre, c'est que Marisa Montes meurt quand Tina a 5 ans. À 10 ans, son père se remarie avec Marisa Pavan. Moi, je suis persuadé qu'il recherche lui aussi une nouvelle Maria Montes. Et à nouveau une actrice italienne, même si elle n'a pas l'aura de Maria Montes, elle a quand même fait une carrière sympathique. Hein, Marisa Pavan, elle est italienne, elle est brune. Et pour Tina, c'est une nouvelle maman, une deuxième maman, ce que Marisa Pavan ne pouvait et ne voulait pas accepter. Donc à partir de là, bien sûr, les relations étaient compliquées. Bon, en plus, Marisa Pavan, qui est la sœur, en plus d'autres actrices, hein, notamment celle qui fut l'éphémère Pierangeli, hein, qui fut l'éphémère fiancée de James Dean, c'est quand même quelqu'un qui vient d'une famille... très catholique, très très rigueur, alors que Tina avait quand même une relative faible différence d'âge entre les deux, parce que Marisa Pavan était jeune, donc c'est sûr, ça pouvait pas coller, ça ne pouvait pas coller. Et puis alors, il y a eu la drogue qui fait que quand Marisa Pavan a eu avec Jean-Pierre Aumont deux enfants, bon évidemment, c'était très très compliqué d'inviter Tina à la maison. Où elle était un peu la sorcière, quoi. Hein. Donc, ce sont des relations qui sont restées à la fois conflictuelles, avec un peu d'argent. On a dit que Jean-Pierre Aumont s'était comporté lâchement. Moi, je n'en sais rien. Je sais pas. C'est, à mon avis, plus compliqué que ça. Il n'en demeure pas moins que, bon, moi, quand j'ai rencontré Marisa, qui est toujours de ce monde, hein, d'ailleurs, j'ai trouvé quelqu'un de relativement maintenant apaisé. Hein, Jean-Pierre Aumont. Est mort il y a maintenant quand même un certain temps, et qui voilà, m'a donné l'impression de bah, tout ça, c'est évidemment maintenant loin et du passé, mais de n'en pas vouloir à Tina Aumont, ça c'est certain. Voilà, j'ai trouvé que cette femme avait de la dignité. Ça, je dirais ça comme ça.
Bah, c'est quelque chose aussi moi, que j'aime beaucoup dans votre livre, parce que votre livre... C'est pas une biographie classique, voilà. Il y a du style, c'est écrit, enfin c'est très addictif. Enfin, ceux qui l'ont lu me comprennent, et puis ceux qui l'ont pas lu, mais faut qu'ils l'achètent, hein, voilà, et qu'ils le lisent.
C'est sûr.
Ben voilà. Et y a pas de. Vous évitez toujours. Pourtant, c'est très développé. Il y a beaucoup de rencontres. Vous évitez toujours le. Par moment, on sent que vous êtes désarçonné par vos interlocuteurs, tout ça. Enfin, il y a des choses qui vous chagrinent. Il y a des choses. Mais vous évitez toujours tout jugement de valeur. Voilà. À l'image de ce que vous venez de dire à l'instant, vous êtes aussi quelque part un observateur.
Oui, 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 oui. Bon, ça, c'est... Bon, le détective, enfin le entre guillemets, hein, le bon détective, il est là quand même pour, comme vous l'avez dit, observer et restituer factuellement les choses. Il n'y a pas véritablement à prendre parti. À un moment d'ailleurs, je m'interroge finalement, qui est Tina Aumont, qu'est-ce qu'elle a laissé. Bon, il y a la filmographie, mais et puis on se rend compte que c'est aussi une personnalité plus complexe qui alors a eu évidemment ses problèmes, elle, de perte d'enfant, mais qui avait signé le fameux manifeste des 343 salopes à l'époque, avec d'ailleurs notamment Nadine Trintignant. Voilà, c'est quelqu'un... bon, je pense qu'on peut... alors après, c'est en fonction de l'intérêt de chacun, mais faire plusieurs lectures dans la lecture. Il y a un côté psychanalytique, hein, visiblement, hein, avec la mort de la mère, l'absence du père, parce que globalement, Jean-Pierre Aumont a été absent toute la vie de Tina. Lui, il a continué à mener une existence d'acteur reconnu un peu partout dans le monde, notamment aux États-Unis. Donc elle a dû véritablement se débrouiller. Et puis le drame, véritablement, c'est que des hommes ont dit l'aimer, mais c'était plus, ils ont plus abusé d'elle, ils ont plus abusé de la star, hein, même si elle était déchue, Tina Aumont. Et puis les hommes qui l'ont aimée vraiment, il y en a notamment deux, hein, avec qui je suis toujours d'ailleurs régulièrement en contact, Yvan Galietti et Thierry de Ségur, ils l'aimaient, mais on ne pouvait pas vivre avec Tina. Quand vous n'êtes pas dans la cam, ça peut pas fonctionner, quoi. Donc c'est tout le drame, quoi. Hein. Voilà, elle a aimé des gens qui, eux, je pense, ne l'aimaient pas vraiment, à part Pardot, hein, qui a été vraiment sa parenthèse enchantée. Et puis elle aimait aussi d'autres, mais qui ne pouvaient pas vivre avec elle.
Parce qu'on a un peu oublié Frédéric Pardoe. Moi, j'ai redécouvert la lecture de l'ouvrage, qui est un artiste en fait, qui est oublié aussi.
Ah oui, qui est oublié. Alors sa femme essaie de faire vivre son œuvre, mais bon, avec un peu de difficulté. On oublie que ça a été effectivement un grand peintre dans les années 70 et 80, hein, parce qu'il a été quand même portraitiste quasi officiel pour Mitterrand, et puis. Il a remis au goût du jour cette peinture à la tempéra, là, qui était notamment aussi utilisée par Matik Larwine. Oui, c'est vrai, on a oublié Pardo, qui était un dandy, donc c'était l'époque hippichique hein, pour eux, et ça, Tina aimait ça. Il y avait beaucoup d'élégance, il y avait beaucoup de culture. Bon, malheureusement, Pardo, lui, était essentiellement opiomane, quoi, donc ça n'a rien à voir. Bon, même si on peut évidemment. Avoir un avis tranché, ça n'a rien à voir avec l'addiction à l'héroïne, hein, bien sûr. Mmh. C'est pas les mêmes rêves, quoi. Hein. Et Tina trouvait dans la drogue cette espèce de refus du monde aussi, qu'elle ne voulait pas voir tel qu'il était, avec ses coups tordus, avec ses cruautés. C'était vraiment une fille très gentille. Et bah, comme d'autres, hein, la liste est longue, hein. des artistes, notamment des acteurs ou actrices,
qui
ont basculé du mauvais côté. Hein. À un moment, je cite Patrick Devers, c'est un autre exemple aussi, si on prend un penchant masculin, beaucoup plus violent, parce que bon, c'était un homme, donc la testostérone fait plus de dégâts.
Mais... Après, ce qui est fascinant, vous l'avez un peu abordé tout à l'heure, hein, mais ce qui est fascinant dans votre livre, là, donc Waiting for Tina, à la recherche de Tina Aumont, paru chez L'Autre Regard Édition, c'est qu'on a l'impression, quand on lit le livre, de mieux connaître Tina Aumont à travers tous les témoignages que vous nous livrez. Et pourtant, dès qu'on a fini la lecture, dès qu'on referme le livre, elle conserve tout son mystère. Est-ce qu'en fin de compte, c'est pas ça qui la caractérise le mieux, Tina Aumont ? L'adjectif qu'on pourrait employer, c'est qu'elle est mystérieuse, quoi.
C'est une femme mystérieuse, pour l'écrivain c'est une muse, c'est clair, pour moi, elle l'a été je pense pour pas mal de cinéastes, hein. D'ailleurs Ludovic Maubreuil l'a mis dans ses, je crois qu'il y en a 20, un portrait, dans son bouquin qui s'appelle Cinématique des muses, hein. il a mis, qui s'attache plutôt à des actrices qui ont fait plutôt des seconds rôles, on va dire ça comme ça. Donc c'est sûr que Tina Aumont garde son aura, son mystère. Elle avait cette capacité à la fois de donner tout en se retranchant dans son monde à elle, qui reste effectivement en partie mystérieux. Moi, je le dis à la fin du livre, alors bon, on peut ne pas être d'accord, hein, bien sûr, mais il y a une forme de sainteté moderne chez elle, hein, c'est évident, quoi. Parce qu'elle a quand même bouleversé la vie de tous les gens qui l'ont rencontrée, hein, que ce soit les hommes ou les femmes. Alors à part, comme je l'ai dit, quelques abrutis qui ne se sont pas bien comportés avec elle, mais tous les gens qui l'ont fréquentée, même dans des rapports professionnels, Bernardo Bertolucci était tout au bon. Hein. Il a...
D'ailleurs, c'est un des rendez-vous manqués du livre, un peu, Bernardo Bertolucci. C'est frustrant.
C'est un rendez-vous téléphonique.
C'est frustrant, du coup. Moi, j'adore Bertolucci, donc c'est frustrant, voilà. C'est...
Ouais. Ah oui, mais bon, il y a... Vous savez, le détective est, de temps en temps, malheureusement, comme je n'ai pas pu, il n'a pas voulu, malgré plusieurs tentatives, rencontrer Blaise, qui a été le dernier homme de sa vie, qui l'a accompagné sur les dernières années, qui, je pense, était difficile pour elle, mais aussi pour lui. Et bon, moi, je respecte. Hein, et je comprends tout à fait. Bon, et puis, il y a eu suffisamment d'informations et de choses qui, je pense, ne font pas passer à côté des dernières avis de la vie de Tina Aumont. Qui avait trouvé un peu un double, en quelque sorte, aussi avec Alain Pacadis, hein, qui a été un compagnon de dérive, mais en même temps de bringue mémorable. Hein. C'était fou, hein, l'époque Paca, qui s'est mal fini pour lui, encore plus vite que pour Tina. Mais c'était aussi une sacrée époque, hein, 10 ans après la période psychédélique. Hein.
Vous écoutez Tina Aumont au micro de Culture Prohibée.
68, Partner de Bernardo Bertolucci.
Ah, moi, c'est Carmel, mais j'ai Partner et Manu Dio. Ah, c'est en 68.
Et
ouais,
ça vous a plu?
C'est quoi? Le Bertolucci, absolument. Bien que... Oui, non, non, mais oui, ça raconte. J'avais les yeux peints sur mes paupières. Et...
Ah bon?
J'avais vendu des... Oui.
Non, je suis désolée.
Détensif de maison en maison et j'arrive chez Clémentine qui a toutes ses histoires pour les films pour lui vendre mes détensifs. Il y a un dialogue improvisé.
Clémentine, l'acteur français.
La sœur Pierre Clémentine qui est resté un bon ami à moi. Et c'était en 68, je ne sais pas dans quelle année vous
avez. Oui, c'est ça.
Oui. Donc moi, je l'ai en 69. Justement, parce qu'il y avait toutes ces histoires à Paris, Bernardo avait très peur qu'on quitte avait peur qu'on quitte le tournage de son film, après tout.
Vous vous sentiez, à propos des événements de 68, vous sentiez,
concerné
par le problème?
Oui. Oui, comme je me sens concerné, c'est difficile de ne pas être concerné.
Vous connaissiez à l'époque Truffaut, tout ça,
j'étais pas intime.
La Nouvelle Vague.
Très consciente de sa pouvant vague et trouvant ça une bonne chose, absolument. Non, j'étais pas sur les barricades, vu que, effectivement, à l'époque, Bertolucci était très inquiet parce qu'il avait peur que Pierre et moi, on dise oh, c'est dommage, c'est bien, allons à Paris. Et il nous a surveillés aussi bien Pierre que moi.
Mais en Italie, il n'y a pas eu les mêmes débordements qu'en France à ce moment-là?
Moins, beaucoup moins.
Les étudiants italiens ne se sont pas sentis
concernés, si, quand même.
Si.
Mais c'était...
Il y a eu moins de mouvements de révolte.
Pour nous, Français, effectivement, c'était bizarre de se retrouver à Rome.
We'll be right back.
y a aussi l'aspect une icône rock'n'roll quoi, qui semble échapper d'une chanson du Velvet quoi. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette Tina qui côtoyait Nico, Patrick Codeline aussi qu'on retrouve dans le livre?
Codeline, Johnny Saunders hein, par l'intermédiaire d'Octavio, voilà, c'était des gens qui étaient quasi émerveillés devant Tina Aumont, qui leur a appris plein de choses, y compris pour Odeline à se shooter, apparemment, enfin, c'est ce qu'il dit. C'était... elle avait une très belle voix. Hein, à un moment, dans le livre, je crois que c'est Isis, hein, qui dit elle aurait pu chanter du rock, en fait. Hein, parce qu'elle chantait bien. Hein, bon, malheureusement, c'est un aspect qui n'a jamais été exploité au bon sens du terme. Et puis, c'est une fille qui adorait tout ce qui était bien sûr un peu marginal en matière d'art, mais enfin, bon, elle adorait la science-fiction, elle adorait le rock'n'roll, elle adorait le jazz, hein, c'était une fondue de Billie Holiday, hein, notamment. Bon, autre destin tragique, hein, où on peut trouver aussi des connivences là, hein, entre les deux, hein. Donc elle aimait énormément ce milieu-là, oui, absolument.
Et c'est aussi votre livre, c'est aussi, je trouve, l'histoire, vous l'avez un peu dit hein, tout en début de cet entretien, mais l'histoire d'une certaine contre-culture, de toutes les, vous avez expliqué que vous l'avez découvert avec Les Hautes Solitudes, c'est un film de 74 de Garel, avec Gene Seberg, donc Nico, Laurent Terzieff. Est-ce qu'on peut dire que Waiting for Tina, c'est aussi un livre sur toute cette créativité, cette effervescence qui accompagnait les années 70?
Ah oui, bon là... un peu plus égoïstement, hein, pour moi, c'est cette période qui m'a fait naître une deuxième fois à la vie, hein, et qui m'a donné le goût d'écrire, parce que bon, malheureusement, je chante comme un pied, donc c'était compliqué de ce côté-là. Mais bon, l'écriture, bon, j'ai aussi un atavisme familial, parce que mon père aussi était écrivain, donc voilà, j'ai pris ce côté-là, effectivement. Mais voilà, oui, c'est aussi essayer de réhabiliter, parce que bon, l'histoire, c'est toujours pareil. Hein, on vous parle de la Beat Generation, les gens connaissent Berouf, Kerouac et Ginsberg. Et il y a tout un tas de poètes et d'écrivains derrière extraordinaires, comme Bob Kaufman, par exemple, que moi j'ai découvert bien plus tard. Et puis dans la contre-culture, c'est pareil, quoi. Hein, y a plein de gens qui ont fait des choses superbes, qui aujourd'hui sont un peu passés à travers. C'est pour ça que bon, voilà, quand j'ai rencontré Françoise Clavel qui a eu toute une histoire aussi avec Libération, avec toute cette Free Press de l'époque, j'ai voulu aussi témoigner de la richesse de cette époque, qui était peut-être un peu foutraque, mais bon, la créativité c'est ça aussi, hein, on réussit pas un chef-d'œuvre à tous les coups quand même.
Et vous rencontrez Catherine Ribeiro qui dit qu'elle croisait Tina chez son coiffeur, voilà. Mais qui est quelqu'un qu'on a oublié aussi, qui est une sacrée rockeuse, on peut dire.
L'extraordinaire chanteuse, complètement aussi oubliée, malheureusement, aujourd'hui. Bon, je ne sais pas où elle en est, là, parce qu'elle a eu un AVC là, il y a quelques mois, qui est soignée en Allemagne. Mais voilà, il y a effectivement des gens comme ça qui apparaissent dans le livre. Ils sont des témoins, Marie-France, hein, bien sûr, aussi, Fabienne Schein, qui, elle, continue à tourner avec Shaking Street, qui est une hard rockeuse, elle, hein, qui est venue du punk, hein, qui était très amie, qui a fréquenté Tina à la période italienne, à l'époque, elle partageait la vie de Klaus Kinski. Voilà, tous ces gens se racontent et ils donnent chacun, je pense, un éclairage. Enfin, c'est une pièce du puzzle. Voilà, un puzzle qui n'a pas forcément vocation à s'assembler. Comme vous l'avez dit, on met les pièces et puis à la fin, je veux et je tenais à ce que le lecteur se fasse sa propre idée et de ne pas lui imposer une vision, ma vision de Tina, qui de toute façon n'est pas la vision d'un portrait entier qu'on peut voir comme ça, complètement lisse dans le miroir.
Écoutez Culture Prohibée spéciale Tina Aumont.
Le lit de la Vierge de Philippe Garrel, vous vous rappelez de ça?
Oui.
69.
Voilà quelqu'un que je ne fréquente plus et qui a du succès maintenant.
Ce film a compté pour vous?
Oui. Parce que c'est un film que j'ai fait pour faire partie d'un projet qu'on faisait entre amis. Enfin, c'est l'impression que j'avais à l'époque. Et j'ai fait aussi des hautes solitudes avec Garrel, avec Jules. Je l'ai même pas vu. J'ai fait un extrait le soir à la télé. Je crois qu'il n'y avait pas de son. C'est assez frustrant.
Il
n'y avait pas de scénario et je crois bien qu'il n'y avait pas de son. Enfin, on improvisait et effectivement, il avait une très belle caméra qui mettait sur le pied. C'était très soigné, je veux dire, d'être ami, etc. Mais il n'y avait pas de scénario ni d'histoire précise. Donc c'est bien de faire confiance aux comédiens, mais il faut quand même qu'il y ait un coup de taxe.
Conclure, hein, j'ai envie de vous poser une question qui semble simple, et pourtant, vous avez enquêté pendant 10 ans pour écrire Waiting for Tina, vous êtes parti à sa recherche, hein, comme le dit le titre, mais est-ce que vous pensez que Tina elle-même, est-ce qu'elle s'est trouvée elle-même, j'ai envie de dire, voilà, durant sa propre existence?
Bon, je crois que les gens quand même qui se trouvent eux-mêmes, à part quelques sages... Il y en a quelques-uns, mais enfin, c'est quand même rare. Je crois qu'on est toute notre vie à la recherche quand même de nous-mêmes, d'un chemin de vie qui est plus ou moins droit, plus ou moins tortueux, et je crois que ça a été le cas pour elle. Je pense quand même que dans les dernières années de sa vie, elle avait acquis une forme de sérénité. Elle savait qu'elle allait vers la fin. Elle l'acceptait et puis elle continuait à faire ce qu'elle aimait, à part malheureusement le cinéma, puisque bon, le dernier à l'avoir fait tourner, c'est à cheval 2000-2001, Nadine Trintignant, dans ce téléfilm où elle a un rôle extraordinaire, où elle joue la mère de Marie Trintignant, et puis Jérôme Demisol, c'est 40 secondes dans La mécanique des femmes, où elle dit à peu près tout en 40 secondes, quoi, hein, il y a 13 adjectifs qu'elle dit... sont censés qualifier le personnage et qui, je crois, lui ressemble beaucoup. Donc oui, je crois qu'elle elle savait en partie qui elle était, une princesse noyée, une enfant perdue, qui a vécu avec ça, avec des blessures, et puis avec quand même beaucoup de beauté, beaucoup de grâce, beaucoup d'élégance. Et ça, c'est quand même pas donné à tout le monde, quoi. Elle est jamais tombée dans des luttes de pouvoir, de sexe. Bon, elle a eu cette addiction, effectivement, avec tourner de tout petit bout, parce que, bon, comme je l'ai dit dans le livre, Nadine Trintignant me l'avait dit, bon, les assurances ne voulaient pas couvrir. Elles disaient, bon, il y a un problème pendant le tournage, donc c'était plus que des scènes, malheureusement, mais ça ne fait rien. Pendant ces moments-là, elle irradiait complètement.
En tout cas, ouais, on peut que conseiller votre ouvrage, hein, qui en tout cas moi m'a beaucoup plu, voilà, qui s'appelle donc Waiting for Tina, la recherche de Tina Aumont, qui est paru chez L'Autre Regard Édition. Je vous remercie pour le plaisir de lecture que vous m'avez procuré. Hein, et...
Oui. Bah écoutez, c'est moi qui vous remercie. Ce que je voulais simplement rajouter, c'est que ça a été pour moi évidemment une aventure humaine, mais qu'elle continue aujourd'hui grâce à des gens comme vous, parce qu'on s'est rencontrés. À travers le personnage, et puis des gens que je continue à voir, qui Ils m'ont redonné d'ailleurs des éléments. Si on fait, et ça risque d'être le cas en 2021, une édition, elle sera un peu enrichie parce qu'il y a deux, trois choses nouvelles qui apparaissent. Et puis je vais vous donner un petit scoop avec mon ami Erol Divard qui m'accompagne depuis 4 ans pour la mise en paysage sonore de mes textes. On va faire 45 minutes, 50 minutes d'extrait de Sina avec une musique originale et quelques bandes additionnelles, notamment Billy Holiday et Nick Cave. Voilà, je ne vous en dis pas plus.
D'accord, bon bah écoutez.
Mais j'aurai le plaisir, le moment venu, de vous faire parvenir tout ça.
Le programme est alléchant, en tout cas. Mais...
Voilà. Et Gaglietti et Yvan Gaglietti doit terminer, j'espère, aussi l'année prochaine, le documentaire qu'il a commencé il y a déjà 20 minutes, il devrait faire aussi 45 minutes, qui s'appellera Antistar Sina, avec des images qu'il a tournées depuis une trentaine d'années, enfin, jusqu'à son décès, bien sûr.
D'accord, bah écoutez, on espère voir tout ça, on espère qu'il ira au bout de son grand œuvre.
On a la recherche de Tina, on l'a en partie trouvée, mais on va continuer à la chercher, on est quelques-uns, et Culture Prohibée en fait partie, donc merci à vous.
Eh ben merci à vous, Jean Azarel, merci à vous.
Si les sept le courent.
Oh, comme quod comprehender. Me concubitum pulcra cum femina esse. Veni. Oui, de la lutne, est assez aptistique.
Gaica domina essiam tu es?
Je suis française. Je m'appelle Henriette.
Henriette?
Quelle langue parles-tu avec ton amant?
Nous ne parlons pas. Pour ce que nous faisons, c'est inutile.
Francia!
You think I gave him a long enough head start? Yeah, me too. Dark clouds cover my shoulders like fine fur. Divine scourge scores the earth, all times merge. Blend of thoughts like whirlwinds that come and take New York. Rappers worshiping false idols with a plate of pork. I scoff heartily, puncture arteries, pardon me. I charge a down payment just to talk with me. Building towers cross the stars to defy the odds. Wife Deja Thorres is John Carter of Mars. Feeling like I lived 1,000 lives yesterday. Swore to finesse with grace, she loved the way the essence tastes. Her hair glistens if you listen to the vision sung. Every kiss whispers poetry in a different tongue. Silent moans to zone out the groans that roam out. More skull than the catacombs and we home now. Drinking absinthe and mead on alternating evenings. Righteous teachings and speakings to civilize the heathens. Too much sodium, colloquial flows. Tribal fallopiums, home stone blowing red chunks of opium. Get that garbage backy out the hookah. Act like a trooper. Serve these rappers up on a platter with yucca. Start a war with time to wait it beyond. Wait to beyond, beyond the stars over yonder. Tina Amar. She washed her hands with the blood of the liars. Then tried them with the hearts of the defiant.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée par Les Films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr et Radio Graphite, graphite.net. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.fr. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur Deezer, iTunes, PodCloud et Spotify. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit la Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Et puis à la technique, il y avait The Last But Not The Least. Je veux bien sûr parler de Léo Magnin. Salut les gens, à la prochaine.